explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
La plupart des grands voyageurs ont leur terrain de prédilection. Un biotope qui leur correspond plus que les autres. Ils ne savent pas forcément dire pourquoi, mais leurs pas les ramènent immanquablement vers un type de paysage. Cela peut être l'immensité des steppes, les sommets enneigés ou encore la glace immaculée des pôles. L'écrivain et grand reporter Tristan Savin, lui, a jeté son dévolu sur les forêts tropicales. En une trentaine d'années, il a arpenté les jungles du monde entier, du Mexique à Bornéo, en passant par l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique. Entre émerveillement et fascination, chaque nouvelle exploration a fait grandir sa passion pour les arbres, mais aussi pour les peuples et la faune qu'ils abritent. Au fil du temps, l'écrivain a pris conscience que ses voyages en forêt tropicale s'inscrivaient dans une quête qui prenait ses racines dans son enfance. Tristan Savin raconte ses rencontres, ses découvertes et son cheminement personnel dans un livre intitulé « Dans les forêts du paradis » aux éditions Salvator. Cet après-midi, il nous emmène bivouaquer sous les feuillages des tropiques. Et en fin d'émission, avec Ismaël Khelifa, nous mettrons le cap sur la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Pour la série Échappée belle de France 5, il est allé à la rencontre des habitants des villages meurtris, il y a un peu moins d'un an, par la tempête Alex. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Florian Dorimini. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Bivouac. Daniel Fievé.
Le matin de bonne heure, la vie apparaît. Tous les jours, c'est différent. La flore, les animaux que l'on aperçoit.
La vue panoramique qu'il y a ici est l'une des plus belles. On peut voir presque toutes les chutes. Et les deux plus importantes, la Salto Bosetti et la San Martín.
Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je ne connais pas beaucoup d'autres endroits, mais c'est une merveille.
Les voix de deux gardes forestiers du parc national d'Iguaçu, à la frontière de l'Argentine et du Brésil. Ils travaillent dans cet endroit, le quittent rarement et ils sont émerveillés au quotidien par ce spectacle qu'ils ont sous les yeux. Bonjour Tristan Savin.
Bonjour Daniel, ravi de bivouaquer avec vous.
Mais de même, alors votre passion pour les jungles tropicales vous a mené dans ce parc national d'Iguaçu lors d'un voyage en Argentine où on vous avait envoyé pour un reportage. L'endroit est aussi merveilleux que le disaient ces gardes forestiers.
C'est considéré comme une des merveilles naturelles du monde. Je ne sais pas s'il y en a sept comme les autres disparus, mais c'est merveilleux à tous les points de vue. D'abord par l'immensité, parce que ce sont des chutes qui font de mémoire 2,5 km de large, en forme de fer à cheval. Au milieu, vous avez un endroit qui s'appelle le Trou du Diable, avec plein de légendes. On n'a pas le temps de les raconter, mais on est chez les Guarani, hein, donc on est aussi au pays des légendes. Ces chutes seraient dues à un serpent géant qui était un dieu des Guarani qui avait voulu se venger. Enfin, il y a toute une histoire magnifique avec une princesse indienne qui a été pétrifiée pour ne plus fréquenter son amant. Enfin bon, c'est vraiment un lieu merveilleux à tous les niveaux, intellectuellement déjà avec ces histoires de légendes magnifiques. Et surtout, quand vous êtes à 1, 2 kilos ou même 2 kilomètres des chutes, vous les entendez déjà. Donc ça commence par un émerveillement sonore avec des bruits que vous n'avez jamais entendus nulle part. Même quand il y a un déluge sur Paris ou dans le midi de la France, vous n'avez pas ce bruit-là. C'est un bruit absolument unique au monde. Ce sont des tonnes et des tonnes, des milliards d'hectolitres d'eau qui tombent en même temps. C'est absolument impossible à imaginer au niveau sonore. Donc déjà, vous êtes frappé par ça. Et ce que j'avais fait, j'y suis allé plusieurs fois. La première fois que j'ai visité les chutes, j'ai fait quelque chose de totalement illégal. Je peux l'avouer, il y a prescription. C'est que j'avais voulu visiter les chutes de nuit. Et c'était une nuit avec des un orage et des éclairs magnétiques. Donc déjà, vous aviez une autre magie, celle du ciel, avec des milliers d'éclairs qui frappaient la forêt, parce qu'on est vraiment dans la forêt vierge. Hein. C'est une vraie forêt primaire. Et visiter de nuit, ce que je ne conseille pas évidemment à nos auditeurs, ça doit être mieux gardé maintenant d'ailleurs. Quand je suis arrivé près des chutes, j'ai eu un troisième émerveillement qui était celui d'une eau phosphorescente. Ouais. Et là, vous êtes vraiment, c'est ce que je raconte dans mon livre d'ailleurs, je crois, j'avais l'impression d'être face à un vaisseau mère d'extraterrestres qui venait d'atterrir. Ouais. Tellement la lumière, et c'est une lumière naturelle, c'est la lumière de l'eau en fait, c'est absolument sublime.
Vous éprouvez le sentiment d'être téléporté dans une autre dimension, peut-être au centre de la Terre,
voilà.
Dites-vous.
On est en fait dans le centre de la Terre selon cette légende guarani, puisque le fleuve a été cassé par ce dieu serpent géant qui a voulu projeter les amants maudits dans les enfers, donc dans le centre de la Terre.
À chaque fois que vous pénétrez dans l'une de ces forêts tropicales, vous semblez les apprécier de façon sensuelle, au sens sensoriel. Oui. Là d'ailleurs, vous nous avez déjà décrit cette phosphorescence, le son des cascades, tous les sens sont en éveil.
Exactement, sauf un en fait, parce que comme vous le savez, il y a 5 sens. Il y a un sens qu'il vaut mieux éviter d'utiliser dans ces forêts-là, je précise, dans les forêts tropicales primaire, c'est le toucher.
Oui.
En fait, on peut toucher les racines avec ses pieds si on a des bonnes chaussures, mais je me souviens de quelqu'un qui avait touché une plante et sa main avait gonflé en 5 minutes et il avait fait un choc allergique. Il vaut mieux éviter de toucher dans ces forêts, mais le reste est en éveil, effectivement.
Alors, on va éviter de toucher, on va déjà les écouter, ces forêts. Petit aperçu de la richesse sonore de la forêt amazonienne.
Les 5 ou 6 notes claironnantes sont celles de la petite oiseau à tête noire, la lapie. C'est un petit oiseau insectivore, haut sur pattes, se déplaçant dans les strates basses de la forêt. Très loin est apparue une sorte de feulement très sourd. C'est les premières troupes de singes hurleurs qui se réveillent. Alors que plus près de nous, c'est un grimpard, une sorte d'oiseau qui grimpe le long des troncs et qui est inféodé à ces milieux de forêts marécageuses bordant les rivières en forêt. Les cigales prennent ici le dessus sur les oiseaux et vont vite devenir omniprésents dans les heures chaudes de la journée.
L'ambiance sonore de la forêt amazonienne décryptée par Olivier Tostin, écologue qui travaille dans la réserve naturelle de Guyane. Ces sons doivent vous rappeler quelques souvenirs.
Ah, ça me replonge tout de suite dedans, c'est exactement ça, j'adore, je pourrais écouter ça pendant des heures.
Ouais. Alors ça passe par le son, ça passe aussi par la couleur, évidemment vous parlez de cette infinité de vert.
Vous êtes tous les dégradés de vert. J'ai fait la liste d'ailleurs, j'ai découvert des tas de noms de verts, céladon, émeraude, vous avez vert bouteille, vous avez tous les verts imaginables.
Ça passe aussi par l'odorat. Pour un reportage pour le magazine Géo, vous êtes allé dans les hauteurs du Kerala, en Inde. C'est le berceau du poivre. Là, vous avez une passion pour les épices.
Ah, j'adore les épices. Pour moi, les épices, c'est vraiment la saveur des tropiques. Et là, j'avais la chance d'avoir été guidé par Olivier Rollinger, le grand chef spécialiste des épices, qui m'avait appris, ce que je ne savais pas, que c'était le berceau, le Kerala. Et en fait, c'est le berceau de plusieurs épices, pas seulement du poivre. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes dans la jungle, et ce que j'ai découvert grâce à ce reportage passionnant, c'est que les épices, la majorité des épices, sont nées dans les jungles.
Oui,
en fait, les jungles de la planète sont les berceaux des épices. La vanille, ça vient de la jungle mexicaine. Le piment, ça vient de la jungle aussi. Et en fait, on se nourrit sans le savoir des produits de la jungle, encore aujourd'hui.
Ouais. Alors vous allez loin dans la façon de vous nourrir des produits de la jungle, en tout cas d'y goûter, parce que quand on vous propose de goûter une fourmi rouge géante, vous y allez, vous croquez, ça a quel goût ?
Ça goûte citron, c'est très bon. Il faut juste la mordre immédiatement quand on vous la met dans la bouche pour la décapiter, pour pas qu'elle vous pique. Ça, c'est le seul truc à connaître, mais franchement, c'est pas dangereux du tout, c'est très bon, les Indiens s'en nourrissent. Et c'est plein de protéines. Et en fait, aujourd'hui, on mange les insectes. C'est un peu à la mode, mais on le fait dans le monde entier, dans les forêts, depuis la nuit des temps. Les larves sont très bonnes, elles sont bourrées de protéines aussi.
Alors cet aspect gustatif de la forêt, on le retrouve dans l'attachement que vous avez pour votre forêt, la forêt de votre enfance, la forêt vosgienne. Vous dites chacun sa Madeleine de Proust. La mienne a un goût de sapin et l'odeur de la sûre de bois et de champignons sauvages.
Oui, c'est exactement ça. J'ai pas un mot à changer à ce que j'ai écrit. Mais c'est vraiment la Madeleine de Proust. C'est exactement cette idée fabuleuse qu'avait trouvé Proust. C'est que vous avez des parfums qui, instantanément, vous replongent dans des souvenirs enfouis. Mmh. Et moi, c'est ça. C'est exactement ça. Mon enfance dans les Vosges, c'était ça. Mes premiers souvenirs sensuels, vous parliez de sensualité, c'est très important. C'est le sapin, c'est la sciure, parce que j'étais dans un pays de scierie, de menuisier, de bûcheron. Et forcément, pas besoin d'avoir lu Freud pour comprendre que ça m'a marqué enfant, et c'est pour ça que j'aime les arbres et les forêts. Enfin, j'aime pas qu'on les détruise, mais bon, les bûcherons sont pas là seulement, enfin, ils détruisent pas forcément les forêts, ils les entretiennent dans les Vosges. Et ça m'a toujours marqué, cet univers boisé et de ces parfums de sciure, j'adore ça.
Ouais, alors vous avez eu envie d'explorer à des forêts plus luxuriantes encore, plus lointaines. Ce goût de l'exploration et du voyage, il traîne dans la famille depuis un petit moment. Hein, parce que si on grimpe dans l'arbre, oui, dans l'arbre généalogique cette oui fois, on remonte un peu, on tombe sur Champollion.
Oui, les Champollion.
Les Champollion, il y a ouais des frères. Hein. Oui. Parmi eux, il y a l'égyptologue hein, qui a oui décrypté...
Enfin, les deux étaient égyptologues. En fait, c'est une histoire méconnue parce que pour simplifier historiquement, on a toujours parlé de Champollion en parlant d'une seule personne.
Il y a de Jean-François.
Voilà, exactement. C'est Jean-François, le déchiffreur.
Des hiéroglyphes.
Mais il a été formé, initié par son grand frère. Et je descends de son grand frère parce que Jean-François, le déchiffreur, n'a pas eu de descendance à part une fille. Mais bref, quand j'allais passer mes vacances d'été dans cette maison de famille qui s'appelle les Champollion, j'étais dans un musée sans même me rendre compte. Pour moi, c'était normal, c'est la maison de ma tante. Ouais. Et j'ai eu la chance de visiter son bureau sur lequel il a découvert les hiéroglyphes. Et en ouvrant un tiroir, je suis même tombé sur des statuettes qui avaient 5000 ans. Et ma tante m'a dit, attention, ne la casse pas, elle a 5000 ans, c'est un trésor.
C'est incroyable, parce que vous avez 12-13 ans quand vous vivez ouais ça, quand vous ouais commencez par explorer ce bureau d'un explorateur. On comprend que la fibre du voyage vous est pris très tôt.
Bah surtout que j'étais dans un environnement de voyage absolu, parce que les tableaux au-dessus du lit où je dormais, c'était des tableaux d'Égypte. C'était des palmiers, il y avait des tableaux de la campagne d'Égypte de Napoléon. Donc moi, j'ai passé mon enfance bercée par ça, avec des trésors... des papyrus, des cartes, des plans, tous les souvenirs de Champollion étaient dans cette maison ouais où j'ai passé les vacances d'enfant.
Et le goût du voyage, voilà, est présent dans toute la famille puisque votre père oui aussi aimait voyager. D'ailleurs, assez jeune, il vous emmène en Jordanie mmh pour vivre pendant un temps. Et là, vous faites une rencontre douloureuse avec un palmier.
Oui, j'étais sur la plage d'Aqaba et j'étais gamin, je devais avoir 6-7 ans et à cet âge-là, on fait un peu n'importe quoi. J'ai voulu escalader un palmier et ce qui ne se fait pas quand le palmier n'a pas été préparé parce qu'il y a des piquants le long du tronc. Enfin bon, je précise juste que le palmier n'est pas un arbre. Oui, curieusement, le palmier n'est pas un arbre.
C'est plus une herbe géante.
Oui, c'est ça, c'est une plante en fait. Ouais. Et j'ai voulu escalader cet arbre et le piquant du tronc donc m'a traversé la paume. Et d'ailleurs, j'ai ensuite découvert que la paume de la main s'appelle la paume parce qu'elle a la forme d'une palme. Et en fait, si vous écartez vos doigts, vous verrez un palmier. Ouais. Et donc, j'aimais bien cette symbolique ouais de la paume et du palmier. Et j'aime bien cette idée que j'ai de la sève de palmier dans mon sang, en fait. Ouais. Je m'associe ouais à un arbre qui est le palmier.
Vous y voyez un symbole hein, ouais, entre ouais, cette ouais rencontre un avec signe, un palmier, un votre signe forêt vosgienne, ses origines avec les Champollion. Vous étiez fait pour partir explorer ces forêts tropicales. Vous allez nous raconter les rencontres et les découvertes que vous avez faites en arpentant les forêts tropicales du Brésil à Bornéo, en passant par la Malaisie. Le grand reporter et écrivain Tristan Savin nous emmène bivouaquer sous les feuillages des tropiques cet après-midi sur France Inter.
Sauvage, ouvre tes bras.
Des canopées de Polo et Pan.
France Inter, le temps d'un bivouac.
Et la nuit vient de tomber sur notre bivouac. Nous sommes toujours en compagnie du grand reporter et écrivain Tristan Savin qui a publié « Dans les forêts du paradis » aux éditions Salvator. L'ambiance sonore que nous entendons a été enregistrée en forêt amazonienne. La nuit, les sons de la jungle changent quand la nuit tombe, Tristan Savin.
Oui, c'est curieusement, c'est presque plus bruyant la nuit. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est que la plupart des, tout est une question de prédation hein, dans la jungle. Vous avez les prédateurs, les proies, et la plupart des animaux sont nocturnes. Donc, ça peut paraître parfois presque, je dis bien presque, silencieux dans la journée, même si vous avez un raffut infernal dans les arbres avec les oiseaux. Mais tout le monde sort la nuit, hein. Ce sont des noctambules, d'où l'expression oiseau de nuit peut-être. Mais la nuit, c'est impossible de dormir dans la jungle, tout
simplement. Mais vous semblez adorer ces moments nocturnes. Vous avez bivouaqué, vous avez dormi
dans des
hamacs.
Ouais, on dort dans des hamacs. Surtout dans des hamacs, on peut absolument pas dormir au sol à cause des insectes. C'est impossible de dormir à cause du bruit. Mais c'est génial, moi j'adore ça. Au début j'avais un peu de mal à m'habituer, mais ça vous berce en fait. Vous êtes bercé par cette musique, c'est une vraie musique en fait. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que j'ai l'impression que ça a quand même influencé une grande partie de la musique brésilienne. Chez certains musiciens brésiliens de la bossa nova notamment, vous retrouvez des sonorités de la jungle. Ça a une vraie influence sur la culture brésilienne.
Ouais. Vous semblez n'éprouver aucune inquiétude dans cette forêt épaisse et sonore. Pourtant, on peut y entendre retentir des sons pas toujours très rassurants. Bernie Cross, bioacousticien, grand spécialiste des paysages sonores, a posé ses micros en forêt amazonienne et il a un jour enregistré un son particulièrement impressionnant. Je lui laisse le soin de raconter.
Right now, we're in the middle of the night.
On est en plein milieu de la nuit,
in the middle of the
dans l'Amazone, la forêt amazonienne,
place
en plein centre.
Research station called
une station de recherche qui s'appelle Kilomètre 41.
It's just north of Manaus.
C'est au nord de Manaus.
And we're coming up on
et
the jaguar,
là, on arrive vers un jaguar qui va arriver devant le micro. Bien sûr, j'étais là, j'étais complètement étonné et finalement, le jaguar est parti. Il était resté là pendant une ou deux minutes et il est reparti. Moi, mon cœur battait très très vite, j'étais aux anges, j'étais un peu nerveux, hein. Mais je suis toujours là. Hein.
Tristan Savin, en entendant ce son,
ah vous, m'avez dit, ah, des frissons,
vous m'avez dit « Oh, le vénard, c'est ce que j'ai raté ». Il ne vous effraie pas du tout ce rugissement de jaguar?
Non, pas du tout. C'est drôle, j'ai les larmes aux yeux. Ça me donne des frissons. C'est exactement ce que j'ai cherché pendant des années. Déjà, c'est un animal qui me fascine. Pour moi, c'est le plus bel animal du monde. J'adore les félins. Tous les félins sans exception. J'ai un chat à la maison, je le salue, Ferdinand il s'appelle. C'est un animal tellement magnifique que c'est, pour moi, je ne vois pas le danger, quoi. Même si évidemment si j'étais face à un jaguar, je ferais mieux de faire attention parce que c'est quand même un carnivore, hein, pas un animal domestique. Mais c'est tellement beau, c'est magnifique, c'est le roi de la jungle en fait en Amérique du Sud. Enfin en Afrique vous avez le lion. Vous avez le tigre en Asie, en Amérique, c'est le jaguar.
Je ne pensais pas, en vous faisant écouter ce son, vous mettre en larmes.
Ah non, mais c'est tellement beau, je ne sais pas, ça me plonge tout de suite dans la forêt, vous voyez.
Ouais. Alors, vous n'avez pas croisé la route d'un jaguar pendant vos périples en forêt amazonienne, mais à un moment, vous êtes sur une pirogue, vous sentez sur votre épaule quelque chose qui vous gêne, vous vous apprêtez à dégager cette chose avec la main, et l'Indien qui vous accompagne vous stoppe net. Qu'est-ce que vous aviez sur l'épaule à ce moment-là?
J'avais la grenouille la plus dangereuse du monde, la Dendrodobrate, si je me souviens bien. Elle est magnifique, elle est bleue, mais d'un bleu très métallique. Hein. Elle est absolument magnifique si vous la voyez comme ça. Vous dites, oh, la jolie petite grenouille, mais sa peau est couverte de poison. En fait, les Indiens chouars, qu'on appelait autrefois Jivaro, se servent des glandes de ce poison pour chasser, ils les mettent sur la pointe de leur flèche. Et en fait, cet Indien qui était derrière moi s'appelle Cesario, c'est un chaman, et il m'a sauvé la vie.
C'est-à-dire que vous auriez touché
si j'avais touché la grenouille, j'étais mort foudroyé en 10 minutes, un quart d'heure.
Mais alors, vous le dites ça, mais ça ne vous émeut pas plus que ça?
Mais non, parce que j'étais en sécurité.
Parce que vous étiez avec lui.
Parce que j'étais avec lui. Mais quand vous êtes avec alors aujourd'hui, on peut pas vraiment dire indien. Il y a plein d'autres termes à utiliser. Moi, je dis amérindien, mais c'est les peuples premiers. Hein. Ils étaient là avant tout le monde. Et ce chaman, pour moi, est c'est l'homme qui connaît la forêt par cœur. Et évidemment, quand il a vu cette grenouille, il a immédiatement eu le réflexe de la chasser pour éviter que je la touche et que je meure.
Alors le rapport à la nature qu'entretiennent ces peuples qui vivent dans ces forêts est aussi très différent du nôtre. Le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss s'est beaucoup intéressé à cette question. Le voici en 1971 au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie.
Et il y a une très belle croyance chez les Indiens américains, et on la retrouve aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, que le capital de vie qui est dévolu aux hommes, aux animaux et aux plantes est constant. Et que par conséquent, toute destruction de la vie animale ou végétale doit être compensée par une perte de vie humaine. De sorte que chaque année, les sorciers, ceux que nous appelons les chamans dans notre jargon, les sorciers du groupe, se rendent dans la forêt, conférer avec les maîtres des plantes et des animaux, et ils passent une sorte de contrat. De contrat qui est d'ailleurs rédigé sous forme de peinture rupestre. Le compte exact du nombre d'animaux qu'une certaine tribu aura le droit de tuer pour ses besoins alimentaires et qu'elle ne devra pas excéder sans mettre en péril sa propre existence. Et cette idée de la participation de l'homme à un tout qui est plus vaste que lui, à une vie dont il n'est au premier chef qu'une émanation ou qu'une manifestation. Et bien ça, c'est une de ces grandes leçons que nous pourrions, me semble-t-il, encore retenir des peuples que nous appelons primitifs.
Claude Lévi-Strauss, en 1971, Tristan Savin, je vous vois acquiescer.
Ah, mais moi j'adore, c'est un maître à penser, c'est quelqu'un pour moi de très 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 grand, parce qu'il nous a fait comprendre des choses qui pourtant sont élémentaires et évidentes, mais bon, on les avait perdues de vue. C'est ce rapport à la nature. Quand il dit primitif, on entend les guillemets, c'est que c'est nous qui sommes primitifs parce que nous avons coupé nos racines. Enfin nous, les hommes modernes, les urbains qui se croyons, qui nous civilisés. En fait, Lévi-Strauss a une très très grande importance sur la pensée. par cette étude des peuples qu'on appelle aujourd'hui premiers. Et bon, il a, on le sait, il a beaucoup vécu parmi eux, notamment en Amérique du Sud. Moi, j'ai été bercé par ses lectures. J'ai été marqué par ses livres, notamment La pensée sauvage. Je le cite beaucoup dans mon livre. Ouais. Hein, parce que chacune de ces phrases porte, et parce que c'est du bon sens et c'est de l'intelligence à l'état pur. Et c'est vraiment quelqu'un que je regrette beaucoup.
Et qu'est-ce que vous retenez, vous, Tristan Savin, de ces hommes et de ces femmes que vous avez rencontrés dans les jungles du monde? J'ai en mémoire un passage de votre livre où vous dites « Nous, dans notre monde, on vit avec des objets, des choses rectangulaires. Oui, oui. Eux, leur univers est fait de ronds et de cercles, et ça change beaucoup de choses.
» C'est pas moi qui ai eu cette idée que je trouve géniale. C'est un chef indien d'Amérique du Nord, j'ai oublié son nom. J'adore cette idée parce que c'est exactement ça. Je l'ai constaté sur place, c'est que eux mangent en cercle. Nous, on mange autour d'une table carrée la plupart du temps. Dans la nature, le carré n'existe pas. Le rectangle n'existe pas. Il n'y a pas d'angle droit. Et ça, les Indiens, amérindiens, peuple premier, l'ont toujours compris parce qu'ils observent, ils vivent dans la nature. Quand les feuilles tombent en automne, elles décrivent un cercle. Quand vous videz votre baignoire, l'eau décrit un cercle. Quand vous observez le ciel, tous les astres sont circulaires. Donc la nature et l'univers est un cercle. Et ça, c'est pour moi, c'est la sagesse même de comprendre cette évidence que nous, dans notre société, tout est carré. L'écran de votre ordinateur, la télévision, la voiture, le cercueil dans lequel vous êtes enterré, tout est carré. Et c'est contre nature, tout simplement. Ouais. J'adore cette idée.
Alors, eux sont dans le cercle, jusque dans leur philosophie, avec l'idée, leur croyance, l'idée que tout est circulaire, que la vie se régénère.
Et c'est vrai, parce que la vie elle-même est ronde. Le ventre d'une femme enceinte est rond. Un œuf, qui est l'emblème même de la vie, l'œuf est rond. Et vous retrouvez cette symbolique dans toute la culture des peuples premiers, et pas seulement en Amérique. Hein, vous la retrouvez absolument partout, dans les tambours, dans les danses. On danse en cercle, hein, en Afrique et même en Papouasie. Le cercle est fondamental.
Nous poursuivons nos excursions dans les forêts tropicales avec vous, Tristan Savin, dans un instant.
Trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. This chance, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our destiny. Visions, look at the magic of reality, while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in. Together,
C'était José González qui chantait Visions sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Novembre 1931. J'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai vu les ruines d'Angkor. De ces millions de membres noués, la forêt étreint les ruines avec un amour furieux. Pas de romantisme, je vous prie. Je ne dis pas qu'on ait eu tort de dégager certaines d'entre elles, mais je regrette de ne pas les avoir vues avant, quand il était à peu près impossible de distinguer la pierre de l'écorce, quand une fleur sortait de la bouche d'une apsara, quand la mousse livide où fourmillent les insectes modifiait le modelé d'un ventre ou mettait une lueur sur une croupe en mouvement. Certains arbres sont des girons. Pour abriter une statue, leurs racines de 2 ou 3 mètres de large se sont repliées tendrement, comme des ailes. Telle racine a parcouru 60 pieds pour passer sous un bas-relief qu'elle a déterré patiemment et porte avec amour à la hauteur de nos yeux. Telle autre se détourne de son chemin pour remplacer les dalles émiettées d'une esplanade dont elle a pris la consistance et la couleur. La forêt ne veut pas laisser échapper ses ruines.
Extrait du livre « Mon périple » d'Élie Faure, historien de l'art et grand voyageur. Son récit date de 1931. Que pensez-vous de sa description des temples d'Angkor au Cambodge, Tristan Savin?
J'en pense le plus grand bien, parce que figurez-vous que c'est du hasard, mais c'est lui qui m'a donné envie de visiter Angkor. J'ai découvert Élie Faure quand j'étais jeune. Enfin, il est un peu oublié, hélas, aujourd'hui, mais il était encore très à la mode dans les années 80, parce que c'était un des plus grands historiens de l'art. Hein. Ça se passe entre les deux guerres mondiales. Et Élie Faure a été, pour moi, une grande influence aussi bien d'un point de vue artistique, parce que j'avais fait une école d'art. Et pour moi, c'était le professeur par excellence. Son histoire de l'art en plusieurs volumes est une référence pour les étudiants. Et son tour du monde est très important. Parce qu'il a fait son tour du monde en 31-32, et à l'époque on voyageait en paquebot, et son tour du monde a donc duré 2 ans, et il a fait un tour du monde artistique, à la recherche des trésors, ouais. des plus grands monuments, et il est allé notamment donc à Angkor, et sa description, moi quand je l'ai lu, il écrit tellement bien, c'est un styliste, hein, ouais. C'était un styliste avec beaucoup de lyrisme, sa description était tellement belle que j'imaginais les temples, et il m'a donné envie d'y aller.
Alors vous y êtes allé, mais après lui, évidemment, hein, vos pérégrinations sont beaucoup plus récentes, vous semblez avoir regretté de ne pas les...
Ben, j'ai le même regret que lui, ouais. Il le dit d'ailleurs, ouais. Moi j'ai regretté de ne pas les avoir connus, j'aurais voulu être le découvreur d'Angkor, parce que quand on lit la découverte d'Angkor, à l'époque c'était une forêt vierge, et les temples étaient noyés dans la végétation. Bon, après, effectivement, c'est un débat. Est-ce qu'on aurait dû les laisser? Heureusement, un des temples, qui d'ailleurs est le plus beau, a été laissé sous les racines. C'est les racines de ces arbres, enfin, ce sont des ficus étrangleurs. Mmh. On ne pouvait pas les enlever, parce que si on déracinait les arbres, les temples s'écroulaient. En fait, à cet endroit-là, les racines du ficus étrangleur, qui en fait est un banyan, c'est l'arbre sacré. Hein. Le banyan est très très important à l'échelle mondiale, c'est un arbre sacré dans plein de pays, et notamment là en Asie. C'était l'arbre de Bouddha d'ailleurs, mm-hmm. Je précise au passage, c'est sous un banyan que Bouddha a eu l'émerveillement. Et heureusement qu'on n'a pas enlevé tous les arbres, sinon certains temples se seraient écroulés.
C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, la pierre des monuments et la végétation font corps et oui. Sont devenus indissociables.
Exactement.
Et cette idée vous plaît beaucoup.
J'adore cette idée. Ce ficus étrangleur, on pourrait croire qu'il va casser le temple, qu'il va l'étrangler, mais en fait, il le maintient en vie d'une certaine manière, et il prend vie.
Et alors, toutes ces civilisations disparues qui gardent des traces dans des forêts redevenues impénétrables et vierges, vous l'avez aussi ressenti, oui. Cette expérience palpée au Mexique. Là, c'était votre premier voyage dans une forêt.
Oui, mon premier voyage initiatique, comme je l'appelle. C'était mon premier grand voyage, on va dire. Hein, c'est-à-dire à la fois aventureux, assez long, parce que je suis resté plus d'un mois. Et je voyageais vraiment hors des sentiers battus. J'allais pas dans les lieux touristiques. Ouais. Et d'ailleurs, au lieu de me rendre dans le Yucatan, qui est l'endroit où vont tous les touristes américains pour boire des alcools forts, moi j'ai voulu aller aussi dans le Chiapas, qui est beaucoup moins connu, qui est à la frontière du Guatemala, où on trouve encore des temples ensevelis dans la jungle.
Des temples mayas.
Ouais, des temples mayas. En fait, la civilisation maya est née à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le sud du Mexique et en partie aussi sur le Guatemala. C'est à cheval sur les deux pays actuels, mais c'est l'épicentre de cette très grande civilisation qui a construit des temples qui aujourd'hui restent encore mystérieux. Et je raconte dans mon livre, je consacre un chapitre à l'exploration d'un temple qui s'appelle le Temple du Soleil, encore un clin d'œil à Tintin que j'ai beaucoup adoré. C'est que d'après les archéologues, ce temple est aussi mystérieux d'un point de vue architectural que les temples d'Égypte. C'est bourré de mystères. Et ces mystères sont liés aussi à la forêt. Parce qu'on est dans une forêt très mystérieuse. Là, vous avez le jaguar dans cette forêt du Chiapas. Vous avez des toucans, vous avez des singes araignées qui sont des singes attelles avec, ils ont 5 membres, en fait, ces singes qui servent de leur queue pour se balancer dans les arbres. Ils touchent jamais le sol. C'est un lieu absolument magique avec des papillons géants, des lézards, des perroquets. C'est ma découverte de la jungle. C'est pour ça que j'appelle ça mon voyage initiatique. Ma première découverte de la vraie jungle, c'était dans cet endroit du Mexique.
Et c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit « mon paradis perdu se trouve dans les jungles du monde » et que vous avez décidé de les explorer un peu une à une, mais avec parfois des déconvenues, notamment Bornéo. Bornéo qui vous faisait rêver sur les cartes des atlas quand vous étiez petit. Vous dites « c'est la terre sainte des explorateurs ». Et quand vous vous êtes rendu à Bornéo, bah vous avez été terriblement déçu.
Ah, c'est ma plus grande déception, absolument. Parce que ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'y aller. Comme vous l'avez très bien dit, j'ai passé mes journées gamin à repérer des îles sur les atlas. Et un jour, j'avais découvert une île au nord de Bornéo. Et je m'étais juré, je ne sais plus, je devais avoir 10 ans, je m'étais juré d'y aller un jour. Donc j'accomplissais enfin, mais longtemps après, j'y suis allé, je devais avoir, 40 ans. Donc 30 ans plus tard, je me retrouve enfin à Bornéo. J'avais lu évidemment Conrad et tous les grands explorateurs, aventuriers et autres. C'était le pays de la légende. Et j'ai été déçu parce que la jungle, une grande partie de la jungle avait été rasée. Ouais. Et ça, c'est quand on aime la forêt et quand on aime les arbres, c'est absolument terrible de découvrir ces plantations de palmiers à huile qui ont remplacé les plus vieux arbres du monde.
Et les peuples qui vivaient dans cette forêt de Bornéo voient leur environnement dévasté à l'image de cet homme qui appartient au peuple d'Ayak Bao.
Chers ancêtres, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver les arbres qu'on nous a volés et pour découvrir où ils ont été emportés. Je vous présente mes excuses, chers ancêtres qui êtes au ciel.
À l'époque de nos ancêtres, avant l'arrivée des exploitants, il n'y avait pas d'intrus.
Personne d'autre ne venait abattre des arbres ?
Non, en tout cas, personne ne rasait la forêt comme maintenant. On sortait de chez soi et on était dans la forêt. Elle commençait aux limites du village et s'étendait à perte de vue. On croisait des animaux, des sangliers, des ours, des rhinocéros. Nous devons sauver la forêt de la disparition.
Tristan Savin, vous qui considérez ces forêts comme des paradis, ils sont en train de disparaître, ces paradis. En 30 ans d'exploration, vous les avez vus menacés
on le voit avec l'Amazonie, les incendies. Hein. On parle de l'Amazonie, mais il y a des incendies dans toutes les forêts du monde. Là, on était à Bornéo. Les Indonésiens sont en train de construire leur nouvelle capitale sur l'île de Bornéo. Ils sont en train de tout raser. Ça va continuer, ce massacre. C'est épouvantable. Je précise juste que Bornéo est la plus vieille forêt du monde, plus vieille que l'Amazonie. S'il y a une forêt à protéger, il faut toutes les protéger, mais celle-là contient des espèces uniques au monde, notamment des lézards volants, des écureuils volants, la plus grosse fleur du monde, les plus grands arbres du monde. C'est le trésor de la biodiversité se trouve là à Bornéo.
Et à titre personnel, à force d'arpenter ces forêts, vous avez fini justement dans l'un de ces paradis encore assez protégés, les îles Cook, qui sont des îles dans le Pacifique. Vous avez réalisé, alors ces gens-là vous disaient, oui, mais oui, bien sûr, nous on vit encore au paradis. La seule chose que l'on craint, ce sont les tsunamis. Et ils ont, dans ces cas-là, pour consigne d'aller se réfugier dans les hauteurs. Cette idée de refuge vous a travaillé et vous vous êtes dit, oui, en fait, depuis le début, cette quête des forêts, c'est l'envie de trouver mon refuge.
Oui, j'ai mis des années à m'en rendre compte. C'est une sorte d'introspection. Là, j'avais 2 jours de vol pour revenir des îles Cook. C'est quand même très loin. Et cette idée de refuge, c'est exactement ça. Ça m'a travaillé parce que je me suis demandé pourquoi j'avais passé ma vie à chercher des refuges dans la forêt. Et j'ai trouvé, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, mais j'ai fini par trouver une explication qui me paraît crédible et plausible. C'est que, enfant, on a évoqué brièvement tout à l'heure la Jordanie. Je me trouvais en Jordanie avec mes parents pendant ce qu'on appelle Septembre Noir. Donc c'était la guerre civile entre les Palestiniens et, l'armée jordanienne. Et on a trouvé refuge dans la cave de la maison. Et je pense que mon traumatisme personnel initial vient du fait d'avoir été enfermé entre quatre murs de béton, privé d'eau, pendant plusieurs jours. Et dans ces cas-là, quand vous êtes dans une cave gamin, vous avez envie d'une seule chose, c'est d'être à l'air libre, d'être dehors et d'être non pas dans du béton gris, mais au milieu des arbres. Et je pense que c'est, pour moi, le refuge, c'est la forêt.
Ouais. Et aujourd'hui, vous vivez en Bretagne, au milieu d'arbres, dont certains viennent de loin, et vous permettent de soigner votre nostalgie de ces forêts lointaines.
J'ai même un palmier, et on a planté un figuier, et hier matin, je cueillais encore des figues dans mon jardin. C'est mon petit paradis personnel.
Merci Tristan Savin, je rappelle le titre de votre livre, Dans les forêts du paradis, aux éditions Salvatore. Un grand merci à vous, et bon retour en Bretagne.
Merci beaucoup, merci à vous.
Dans un instant, nous partons pour la vallée de la Roya avec Ismaël Khelifa. Il est allé à la rencontre des habitants de la région un peu moins d'un an après le passage de la tempête Alex.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près? Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleurs? Je peux pas te dire à la rivière près. Est-ce que tu sais que nous des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais.
Est-ce que tu sais, c'était Gaëtan Roussel et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
On va te prendre un peu de pain. Pas trop cuit, s'il te plaît. En fait, tout ça, ça vient d'une épicerie qui a été créée juste après la tempête. Les camions ne pouvaient plus passer dans la vallée, donc en fait, on n'avait plus des produits de première nécessité qu'il n'y avait plus dans le village, quoi. Il y avait une tension, il y avait les hélicoptères tout le temps pour acheminer les denrées. Donc il fallait livrer de l'eau aux mamies qui étaient coincées pour leur douche, pour les toilettes. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraide, c'était très joli. Ce lendemain de tempête, de voir les producteurs qui s'étaient débrouillés pour descendre jusqu'au marché à pied avec les fromages sur le dos. Non seulement ils nous font des bonnes choses, mais en plus, le jour où ça va pas, ils mettent tout ce qu'il faut en œuvre pour qu'on ait ce dont on a besoin, quoi.
La tempête Alex qui a frappé la vallée de la Roya le 2 octobre 2020 est encore bien présente dans les esprits des habitants et puis aussi dans le paysage, les dégâts qu'elle a causés. Bonjour Ismaël Khelifa.
Bonjour Daniel.
Vous vous êtes rendu dans cette vallée de la Roya à la rencontre des habitants cet été pour la série documentaire Échappée belle. L'épisode sera diffusé ce soir sur France 5 et on l'entendait un extrait à l'instant. Cet extrait, il est assez représentatif de l'état d'esprit des habitants de la vallée que vous avez rencontré.
Oui, parce que ils vivent vraiment avec ce qui s'est passé il y a maintenant près d'un an. Et il s'est passé quelque chose entre tous ces habitants, c'est qu'ils se sont découverts pour beaucoup des qualités qu'ils ne s'imaginaient pas. Il y a eu vraiment un vent de solidarité, un vent de courage, un vent d'espoir très fort. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que là, on entend Camille, qui est une accompagnatrice en montagne, c'est que tous m'ont dit la même chose, c'est que c'est en dépassant leur clivage, en dépassant leur querelle, qu'ils ont réussi à se sortir de cette situation, puisqu'ils se sont retrouvés quand même coupés du monde pendant plusieurs jours, et qu'aujourd'hui encore, c'est très difficile, cette vie dans la Roya.
Ils vous ont raconté ce qu'ils avaient vu et vécu cette nuit terrible du 2 octobre où tout a basculé. Ils en ont des souvenirs très précis. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté?
Eh bien, je me souviens notamment d'une femme qui s'appelle Nathalie, qui pour la première fois est retournée avec moi près de la rivière, et c'était assez émouvant parce qu'elle était face à moi, mais elle tournait le dos à la rivière. Elle n'arrivait pas à regarder l'endroit où on se retrouvait, qu'elle voulait me montrer. En fait, c'est un camping qui avait été, il fallait savoir qu'il y avait un camping ici avant, qui a été emporté par une vague de 7 mètres. Donc c'est un tsunami qui s'est abattu sur la vallée ce jour-là.
Au niveau de la rivière a tellement monté de niveau en peu de temps que c'est un tsunami qui a dévalé la pente.
Oui, en fait, ce qu'ils racontent tous, c'est qu'il a commencé à pleuvoir très fort le samedi, et puis au fur et à mesure des heures, c'est devenu de plus en plus intense, et qu'au bout d'un moment, ce flot d'eau qui s'est abattu sur la Roya a créé une rivière qui est sortie de son lit, qui s'est complètement déchaînée, qui a détruit plusieurs ponts sur son passage. Seule la voie ferrée, qui est construite très en hauteur, a subsisté. Et quand on y va aujourd'hui, ce sont des scènes assez hallucinantes. La route est vraiment détruite, dévastée. Elle est en reconstruction, mais c'est un chantier pharaonique. Et les gens, pour beaucoup, sont partis, mais d'autres ont décidé de rester. Mmh. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était d'aller voir ceux qui ont décidé de rester. Parce que ce sont les sentinelles des catastrophes climatiques de plus en plus présentes qui nous attendent. Et c'était intéressant de voir comment on fait face à une telle catastrophe.
Mmh. Et ce train, c'est intéressant, ce train. Parce que pendant quelques années, enfin il y a quelques années, ce train était jugé comme plus très rentable, et certains voulaient qu'on condamne cette ligne de train qu'on appelle le train des merveilles. Et là, il a été salutaire. Il a permis de transporter des marchandises, même des animaux, alors que plus rien n'était accessible dans cette vallée.
Et oui, des marchandises, des animaux, des secours, des gens, ce qui est très... ironique finalement dans cette situation, c'est qu'on a beaucoup de débats avec des grands principes sur l'importance du local, l'importance du petit commerce, l'importance des voies ferrées par rapport à la voiture. Et bien là-bas, tout a été expérimenté ultra brutalement à partir de cette tempête. Grâce au train qui s'est substitué à la voiture, on a pu continuer à avoir des liens avec l'extérieur et à vivre dans la vallée. Grâce aux petits commerces qui ont toujours été maintenus dans cet endroit enclavé où on ne dépend pas d'un grand supermarché, eh bien, les gens ont réussi à subvenir à leurs besoins, à survivre. Et donc, quelque part, c'est une façon de mettre en œuvre des choses dont on parle beaucoup tous les jours. Eh bien, eux, ils ont été obligés de les expérimenter très concrètement du jour au lendemain pour survivre et vivre dans cette vallée enclavée.
Alors, les dégâts causés par cette tempête Alex ont été considérables. Hein. Vous l'avez vu, il y a encore un an après, des maisons à moitié coupées. Certaines avaient été complètement emportées. Beaucoup parlent de champs de bataille. On a l'impression un peu qu'une guerre s'est déroulée là.
Et oui, il y a un homme dans l'émission qui nous dit que lui, il a été militaire et qu'il a été en poste à Sarajevo. Il dit, j'ai l'impression de voir à des endroits des scènes de bombardement. Mmh. Mais ce qui est paradoxal quand on va dans cette vallée, c'est qu'à la fois, il y a ce côté chantier, reconstruction, destruction. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est parmi les plus beaux paysages de France. Tout n'a pas été détruit. Et moi, j'ai vécu des moments paradoxaux où je regardais autour de moi, où je me disais, je ne savais même pas que ça existait en France, tellement c'est beau. Et en même temps, j'écoutais le récit des gens, le récit de cette catastrophe, sous ce soleil du sud. On est dans les Alpes-Maritimes, donc la Méditerranée n'est pas si loin. Donc on vit des émotions très extrêmes et très variées quand on traverse un reportage comme celui-ci.
Ouais. Où en est la reconstruction? Parce qu'ils ont commencé à reconstruire ces routes, ces ponts, mais tout n'est pas encore comme avant.
Non, c'est un chantier qui prendra de très longues années pour être mené à terme. quand on est là-bas, on voit bien que on est qu'au début du processus de reconstruction. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est la reconstruction des hommes et des femmes que j'ai croisés là-bas. Et cette reconstruction, elle est très difficile parce que ces gens vivent avec cette rivière. Elle conditionne leur façon d'exister. Et là, d'un coup, elle s'est un peu retournée contre eux, d'une certaine manière. Donc, souvent, vous savez qu'on va à l'autre bout du monde, on rencontre des gens qui vivent encore en lien avec la nature, qui ont une espèce de fatalisme par rapport à la nature, tout en ayant une forme d'admiration, de croyance, de spiritualité pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Eh bien, c'est ce que j'ai rencontré là-bas, parce que cette expérience qui a été très forte pour tous les habitants de La Roya leur a rappelé à quel point cette eau, elle coule dans leurs veines, dans leurs tripes, et à quel point ils y sont liés.
Ouais. Et ceux qui sont nés sur place, en tout cas certains d'entre eux vous disent... Ils n'étaient pas, évidemment, ils étaient choqués par ce qu'ils venaient de voir, par les dégâts, mais il n'était pas question une seule seconde pour eux de quitter cet endroit. Il y en a même une qui vous dit, mais ici, c'est le centre du monde, pour rien au monde, je le quitterai.
Oui, c'est vrai, parce que quand on choisit déjà de vivre dans La Roya, hors de toute catastrophe, évidemment, c'est déjà un choix de vie un petit peu à part. Ce sont des gens qui vivent dans un endroit un petit peu enclavé. C'est un endroit où on réinvente la société, où on repense le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour s'inventer une vie alternative. Voilà, ils ont choisi cet endroit. Mmh. Et de voir cet ancrage, moi j'ai trouvé que ça leur donnait une force supplémentaire. Ouais. C'est-à-dire que l'amour qu'ils ont pour ce lieu, pour ceux qui ont pu rester, les pousse aujourd'hui à y rester, à reconstruire, quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, pour leur vie à eux. Ouais. S'il faut changer d'activité, ils changeront d'activité. S'il faut se réorganiser, ils se réorganiseront. Mais ils resteront vivre là-bas. Et avoir... cette passion pour un endroit, c'est très beau, je trouve.
Ouais. Et puis, il faut le dire, hein, c'est d'ailleurs, vous commenciez à le dire, malgré ces infrastructures qui ont été détruites, l'endroit reste absolument superbe. Hein. On est dans le parc du Mercantour, il y a la fameuse Vallée des Merveilles où vous êtes allé faire un tour avec des gravures qui sont datées de, on parle de 4000 ans hein, pour ces gravures, des paysages à couper le souffle. Hein.
Et oui, c'est pour ça que des fois, on se demande comment faire du tourisme utile, comment donner du sens à nos vacances. Comment donner du sens à nos déplacements? Il y a une façon toute simple, c'est d'aller lors de vos prochaines vacances dans La Roya, soutenir ces gens par votre présence tout simplement. Et en plus, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a des balades extraordinaires, des randonnées extraordinaires à réaliser de tout niveau. Il y a des rivières et des canyons où l'on peut profiter de cette nature exceptionnelle au quotidien. Enfin, il y a des choses fabuleuses à voir. Moi, je crois vraiment que c'est un des plus beaux coins de France que j'ai croisé au cours de mes échappées belles.
Et voilà, c'est ça. Hein, même encore aujourd'hui, hein, il faut le dire. Cet endroit, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, pendant une semaine, j'ai adoré cet endroit, il est encore superbe. Et effectivement, comme façon de s'engager, il n'y a plus douloureux, hein, parce qu'aller passer une semaine ou plus de vacances là-bas, vous ne le regretterez pas. Alors Échappée Belle, dans la vallée de La Roya, un peu moins d'un an après le passage de la tempête Alex, et ben c'est à découvrir ce soir sur France 5 à 20h55. Merci beaucoup Ismaël.
Merci Daniel, merci beaucoup.
Le temps d'un bivouac replie sa tente, vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli France Inter. Merci pour vos messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.